Dans les sabbats précédents, nous avons commencé à regarder différents aspects du sermon sur la montagne. Et nous avons vu que Jésus, au moment où il commence sa première prédication, est confronté à une situation difficile. Il y a dans son peuple, à ce moment-là, quatre groupes principaux qui rivalisent pour avoir l'influence sur le peuple. Ce sont les pharisiens, les sadducéens, les esséniens et les zélotes. Et Jésus ne veut pas être associé ni aux uns ni aux autres. Jésus est venu pour leur dire « Ce que vous dites, c'est tout faux. » Jésus apporte en réalité une révolution. Ce que Jésus propose à ses contemporains, c'est une modification radicale de leur structure de pensée et d'action. De plus, lorsque Jésus s'assied sur la montagne pour prêcher, l'histoire même de Jésus, qui est en parallèle avec l'histoire du peuple hébreu, prêche un sermon que Jésus ne parle pas. Parce que Jésus, assis sur la montagne, se présente véritablement comme celui-là même qui était sur le mont Sinaï et qui, du haut du Sinaï, a donné la loi à son peuple. Mais maintenant, Jésus vient en personne pour expliquer sa loi, pour montrer que sa loi n'est pas ce qu'ils ont élaboré dans leur esprit pendant des siècles. Cette loi, elle est vivante, elle est personnifiée. Jésus en est l'exemple. Jésus amène une révolution, Jésus amène une révélation, la révélation du caractère de Dieu dans sa personne. Mais Jésus continue. Il n'apporte pas seulement une révolution, il n'apporte pas simplement une révélation, il apporte maintenant les clés de la restauration. Il veut restaurer son peuple. Jésus, dans son sermon sur la montagne, donne les clés de la restauration. Il commence en disant « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'est-à-dire, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, heureux ceux qui reconnaissent leur dénuement et leur besoin du Saint-Esprit, heureux ceux qui reconnaissent leur faiblesse et leur profond besoin d'un Sauveur, c'est à eux que la vie éternelle sera donnée. Tout commence par là, tout commence par la réalisation que nous ne sommes rien et que nous n'avons rien à présenter à Dieu pour qu'il nous sauve. Son salut est gratuit. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 289 en français, 300 en anglais, se trouve ce passage. Le Seigneur ne peut rien faire pour la guérison spirituelle de l'homme avant que, convaincu de sa propre faiblesse et dépouillé de sa propre suffisance, il ne se soit volontairement soumis à l'influence de Dieu. Tout commence par là, prendre conscience de notre faiblesse et de nous dépouiller de nous-mêmes. Jésus, dans le sermon sur la montagne, est venu dire à ses contemporains « Cette loi que je vous ai donnée sur le mont Sinaï, vous ne pouvez pas l'accomplir, vous n'en avez pas la force. Je suis venu non pas pour l'écrire sur des tables de pierre cette fois-ci, mais je suis venu pour l'écrire dans votre cœur. » Et vous donnez l'exemple de cette loi vécue. Il est lui-même cette loi incarnée. Maintenant, pour l'écrire dans votre cœur, dit Jésus, j'ai besoin que vous sentiez votre profond besoin de ma présence. Jésus veut leur dire, je suis venu donner la vie éternelle à tous ceux qui veulent me ressembler. Je suis venu donner la vie à tous ceux qui veulent me recevoir. Et lorsque vous m'aurez reçu, alors je pourrai faire quelque chose pour vous. Jésus prend son peuple par surprise. Personne ne s'attendait à cette révolution et à cette révélation. Tout le monde écoute avec attention parce que ce qu'il dit, ce sont des paroles étranges et nouvelles. Mais dans le passage où Ellen White parle et commente le serment sur la montagne, elle dit ceci, quelques lignes après le passage cité plus haut, dans le livre Jésus-Christ à la page 289, « À celui qui ressent son besoin profond, rien n'est refusé. Un accès illimité lui est accordé auprès de celui en qui toute la plénitude demeure. » Jésus est venu apporter un accès illimité au Père. Un accès illimité. Il avait commencé cette révolution en disant « Il est nécessaire de changer votre manière de penser, il est nécessaire de changer votre manière d'agir. Ne cherchez pas une solution dans les solutions qui sont apportées par les factions qui luttent entre elles parmi vous. Aucune d'elles n'a la solution. Il faut changer votre structure de pensée et d'action. Le seul moyen d'accepter cela, c'est de reconnaître que vous êtes pauvre, infiniment pauvre. » Dans sa révélation, Jésus leur avait dit, « Il est lui l'Éternel. C'est lui qui a donné cette loi et c'est lui seul qui est capable de l'inscrire dans leur cœur. Il est la révélation de la loi de Dieu et du caractère de Dieu. » Maintenant, il leur donne la clé de la restauration. Il voudrait que leur caractère se change et soit restauré à l'image du caractère de Dieu. Comment est-ce possible? En ayant un accès illimité au Père. Et l'accès illimité au Père, c'est par lui. C'est un message nouveau. C'est une parole étrange et nouvelle. En réalité, Jésus est en train de leur dire, vous n'avez pas accès au Père. Votre religiosité, les compromis que vous faites, la violence, le fanatisme, aucune de ces choses dans lesquelles vous êtes enfoncés ne vous donne accès au Père. En réalité, n'ont accès au Père que ceux qui n'ont rien pour se recommander à lui et qui reconnaissent leur pauvreté. Celui qui est sur le mont Sinaï est maintenant assis au milieu d'eux et leur dit, « Je suis venu vous donner un accès illimité au Père. Cet accès, c'est par moi. » Ce message est difficile à entendre, ce message est inattendu pour eux. Et remarquez que ce message est inattendu pour beaucoup de nos contemporains encore. Beaucoup de nos contemporains ne sont pas prêts à accepter ce message étrange et nouveau. Dans son sermon sur la montagne, Jésus, en fait, ne fait qu'accomplir la prophétie, cette prophétie qu'il a étudiée, méditée en profondeur. Entre le moment où il est venu à Jérusalem pour la première fois dans ce temple qu'il a découvert lorsqu'il avait 12 ans, et le moment où il a posé pour toujours le marteau et la scie et son tablier dans son atelier de charpentier. Pendant ces 18 années, il a médité la parole et il a compris que son ministère était l'accomplissement de la prophétie. Son premier discours est l'accomplissement de la prophétie. Une prophétie, par exemple, que nous retrouvons dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 57. Nous avons lu ce passage tout à l'heure. Permettez que je relise avec vous simplement quelques versets, à partir du verset 14. Ésaïe, chapitre 57, verset 14. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Vous entendez là les paroles du sermon sur la montagne. Remarquez que dans le verset 14, il y a là quelque chose que nous connaissons. Frayez, frayez, préparez le chemin. Ce texte fait écho à un autre passage qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40 et au verset 3, où il est dit « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Ce texte du chapitre 40 d'Ésaïe est en réalité une prophétie qui annonce le ministère de Jean-Baptiste, qui va venir pour ouvrir la voie, préparer le chemin au Messie. C'est exactement ce que nous avons ici, au verset 14 du chapitre 57. La préparation du chemin pour le Christ. Et puis au verset 15, il est dit « J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. » Ce Jésus Emmanuel est venu parmi nous, et bien qu'il soit Dieu, il est maintenant homme, et il présente au peuple la réconciliation. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, résume en réalité le même message. Regardez ce texte avec moi dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens 2, verset 17. En parlant de Jésus, il dit « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. » Il est venu annoncer la paix et nous donner accès au Père. L'apôtre Paul ici reprend exactement le même thème qui est le thème central de ce sermon sur la montagne que Ésaïe avait annoncé. Et si vous revenez dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 57, un petit peu plus loin dans le même passage, au verset 19, il est dit « Je mettrai la louange sur leurs lèvres, paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. » Ce message de paix, c'est celui que Jésus apporte à son peuple dans le sermon sur la montagne. Parce que Jésus est appelé dans l'Ancien Testament le prince de la paix. Dans le même livre du prophète Ésaïe, au chapitre 9, au verset 5, se trouve ce texte que nous lisons souvent à Noël d'ailleurs, où il est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Jésus, dans l'Ancien Testament, porte ce nom déjà de prince de la paix. Alors maintenant, j'en reviens au discours de Jésus sur le sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. Dans les premiers versets se trouve ce que nous connaissons comme les béatitudes. Et il en est une aujourd'hui qui attire mon attention, c'est la septième. Où il est dit, dans Matthieu, chapitre 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Mais le Fils de Dieu, c'est qui ? C'est Jésus. Autrement dit, ceux qui apportent la paix seront semblables à lui. Le Fils de Dieu, c'est Jésus. Cette promesse qui est donnée avec cette béatitude est probablement la plus grande promesse qu'il y ait, être semblable à Jésus. Finalement, ceux qui procurent la paix, ce ne sont pas simplement ceux qui sont en paix avec leurs voisins ou avec leurs frères et sœurs. Ce sont ceux qui sont porteurs de la paix qu'est Jésus-Christ pour les autres. Ceux qui procurent la paix, ce sont ceux qui apportent le prince de la paix à tous ceux qui sont autour d'eux, parce que c'est le seul moyen d'avoir la paix, la vraie, celle que Jésus donne. Les porteurs de paix. Ceux qui portent la paix du Christ, deviennent semblables à lui. Seulement, pour proclamer ce message dans le monde entier, cela demande plus qu'un homme. Jésus prononce son sermon sur la montagne, comme nous l'appelons, et déclenche cette révolution. Il apporte cette révélation. Il donne la clé de la restauration. Mais aujourd'hui, Dieu veut recruter une armée pour répandre ce sermon sur la montagne dans le monde entier. Autrement dit, Dieu aujourd'hui veut recruter tous les pauvres en esprit pour en faire des porteurs de sa paix, de sa part dans le monde d'aujourd'hui. Et tous ces pauvres en esprit, j'espère que c'est vous et moi. Ainsi, nous avons trois choses à annoncer. Nous avons d'abord une révolution à proclamer. Une révolution pour ceux qui sentent leur besoin d'un sauveur et de la présence de Dieu dans leur vie. Cette révolution, c'est la nécessité d'un changement dans notre manière de penser et dans notre manière d'agir. Certains d'entre nous l'ont vécu, cette révolution, et ils pourraient en parler. Il y a une vieille manière de penser et une vieille manière de faire. Il y a une vieille manière d'être qu'il nous faut abandonner. Et puis, nous avons une deuxième chose à proclamer. C'est la révélation de Jésus-Christ. Cette proclamation dit « La loi de Dieu n'a pas changé. Elle est tout aussi inchangeable qu'est le caractère de Dieu. Intouchable. » Mais cette loi, maintenant, Dieu veut l'écrire dans notre cœur, l'individualiser. Non pas seulement l'écrire sur la pierre, mais l'écrire dans notre vie personnelle. Jésus est venu montrer comment cette loi peut être vécue. Il l'a vécue, lui. Il est cette loi incarnée. Il est Dieu sur terre. Il est l'expression du caractère même de Dieu. Le connaître, c'est lui ressembler, c'est la vie éternelle, disait-il. Et puis, il y a une bonne nouvelle à annoncer encore. Ce troisième élément, c'est une bonne nouvelle, c'est que Jésus nous donne accès, un accès illimité au Père. Cet accès, c'est la clé de la restauration de son caractère en nous. Une révolution, une révélation, une restauration, c'est le message du sermon sur la montagne. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est exactement aussi le message adventiste. C'est le message que nous avons à répandre dans le monde entier. C'est ce message du troisième ange qui doit retentir dans le monde entier juste avant le retour de Jésus pour préparer un peuple à sa venue. C'est ce message-là aussi. C'est une révolution, c'est une révélation, c'est une restauration auquel le Seigneur invite le monde d'aujourd'hui. C'est le thème même du message de l'Église adventiste. Seulement, nous ne pouvons pas apporter un message que nous n'avons pas vécu nous-mêmes. Nous ne pouvons pas proclamer un message qui n'a pas été enraciné dans notre vie personnelle. Et je me pose la question ce matin et je vous la pose. Est-ce que le Seigneur Jésus a fait une révolution dans votre existence? Pour certains, l'entrée de Jésus dans leur vie a été une véritable révolution. Tout a changé. Mais certains d'entre nous sont nés dans l'Église. Est-ce que Jésus a quand même été une révolution pour ceux-là? De sorte que leur vie aujourd'hui n'est plus du tout ce qu'elle était avant, de manière que leur pensée est différente. Leur manière d'agir est différente. Est-ce que Jésus a véritablement provoqué chez vous une révolution, un changement fondamental ou juste quelques petits ajustements superficiels pour rendre la chose acceptable? Et puis, est-ce que j'ai accepté la révélation de Jésus en moi au point que sa loi ne soit pas une obligation pour moi ou ce qui m'empêche de faire ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai reçu cette révélation de Jésus au point que maintenant, sa loi, c'est mon plus grand désir? Lui obéir, c'est ma nouvelle nature. Cette loi n'est pas pour moi un empêchement de tourner en rond. Cette loi n'est pas une entrave dans mon existence ou dans ma promotion ou dans l'épanouissement du moi. Non, ce moi, il est mort et ma plus grande joie, c'est de vivre sa loi. Est-ce que j'ai reçu de Jésus cette révélation de lui-même à ce point-là? Et puis finalement, est-ce que j'ai bénéficié de cet accès illimité au Père? Illimité, au point qu'il ait restauré en moi son propre caractère. Un accès illimité au Père. Est-ce que je bénéficie de cet accès illimité? Il est à mon service, il est là, à ma disposition. Cet accès illimité est là. Il est la clé de la restauration. Le sermon sur la montagne, le premier sermon de Jésus, il était pour ses contemporains, il est tout aussi important pour nous aujourd'hui, tout aussi approprié, tout aussi nécessaire. Parce que nous sommes les pauvres en esprit à qui il s'adresse. Et si nous acceptons d'être les pauvres en esprit, alors à ce moment-là, le Seigneur veut faire de nous aussi les porteurs de paix. Et dans cette septième béatitude, Jésus dit « Heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils et filles de Dieu. » C'est ce à quoi le Seigneur nous invite. Il nous appelle à être ses porteurs de paix pour que les autres reçoivent la paix qui est en Jésus-Christ. Cette paix dont parle le Nouveau Testament, cette paix qui est celle de l'Évangile, la paix de tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si nous sommes ces pauvres en esprit qui apportent la paix aux autres en leur apportant le prince de la paix, alors nous serons nous aussi appelés fils et filles du Très-Haut. Amen.